Radio Okapi.
Spécial Okapi Service sur l'intelligence artificielle et le développement de compétences en informatique. Mercredi 16 avril 2025 à l'Université Protestante au Congo, UPC en sigle, de 10h à 12h. Un rendez-vous à ne pas rater sur les plateformes digitales de
Radio Okapi.
Étudiants, entrepreneurs, enseignants, chercheurs et amoureux de nouvelles technologies, venez découvrir comment l'intelligence artificielle peut révolutionner plusieurs secteurs et changer nos vies. Rendez-vous avec Jody Daniel Kachama et l'équipe d'Okapi Service le mercredi 16 avril de 10h à 12h à l'Université Protestante au Congo, UPC en sigle. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Okapi Service. Nous allons parler des causes profondes des inondations ainsi que les solutions avec le professeur Nicolas Choukou, directeur exécutif de l'Association nationale pour l'évaluation environnementale. Professeur Nicolas Choukou, bonjour. Bien, des questions et préoccupations, composez les 099 706 9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Hippolyte Kapanga, la mise en onde au micro. Jody Daniel Keshama, bienvenue à tous. Bien, les inondations bouleversent le quotidien des habitants de la ville de Kinshasa. Elles affectent le moyen de subsistance, causent des dégâts et des souffrances immenses dans plusieurs provinces où les réseaux d'évacuation des eaux, les dispositifs de protection n'ont pas suivi l'évolution ou l'étalement anarchique des grandes villes. Alors, quelles sont les causes profondes des inondations et quelles sont les solutions? Professeur Nicolas Choukou, vous êtes directeur exécutif de l'Association nationale pour l'évaluation environnementale. Alors, dites-nous, quelles sont les causes profondes, les vraies raisons qui occasionne ou qui cause les inondations?
Merci. Avant de vous parler des causes profondes, j'aimerais bien définir le concept inondation. Mm-hmm. Parce que c'est mieux de connaître c'est quoi l'inondation avant de chuter sur les causes. Et les chercheurs disent que l'inondation, c'est en fait la submersion temporaire, naturelle ou artificielle d'un espace normalement non couvert d'eau. Résultat d'un débordement d'un cours d'eau et surtout de fortes précipitations, d'une montée des eaux marines ou d'un mauvais drainage sur le plan urbain. Mais les Nations Unies parlent de l'accumulation ou l'écoulement d'une grande quantité d'eau sur des terres normalement sèches. Ben ça c'est en fait quelques définitions
les inondations.
Du concept d'inondation. Mmh. Mais quelles sont finalement les causes? Et il y a plusieurs causes, mais les plus importantes sont les suivantes. Nous avons les phénomènes naturels. Parmi les phénomènes naturels, nous avons les pluies diluviennes. Et vous avez le cri du fleuve ou des cours d'eau. D'autres endroits, on parle de tsunami. Et ça, c'est ce qui fait augmenter de l'eau. Et nous avons aussi la cause anthropique créée par l'homme. Et l'homme lui-même est un élément qui occasionne des érosions. Mmh. Par sa façon de construire des maisons, on parle d'une...
Les constructions anarchiques.
De l'urbanisation anarchique.
Anarchique. Okay.
Une urbanisation incontrôlée. L'homme facilite la déforestation de la forêt, alors que la forêt joue le rôle d'écran sur les pluies. Il y a parmi les causes, on peut trouver la défaillance des infrastructures hydrauliques qui entraîne des conséquences vraiment importantes sur la population. Les infrastructures, c'est l'économie de l'environnement. Parce que si vous avez fait des bétonnages, vous avez bien construit, mais cela lâche, ça peut provoquer aussi des inondations. Un autre phénomène important des inondations dont on parle partout dans le monde, c'est le changement climatique. Et quand on parle de changement climatique sur le plan des inondations, on fait allusion à l'augmentation des précipitations, hautes précipitations extrêmes, ou bien si les fontes des glaces se dissout et ça entraîne l'élévation des niveaux de la mer. Et ça occasionne les inondations. Autre élément qui peut occasionner les inondations des villes, c'est l'urbanisation non planifiée. Donc l'effet des bétonisation excessive, réduction des zones d'électrification, occupation anarchique, c'est des causes profondes des inondations qu'on trouve à travers le monde, même dans la ville de Kinshasa. Vous pouvez aussi voir l'insuffisance ou l'absence d'infrastructures de drainage. Vous avez par exemple des routes qu'on est en train de construire sans canalisation, ou bien des routes où il y a des faibles canalisations. Il n'est que normal que quand il pleut, ça va déborder. Vous avez aussi les réseaux d'évacuation inadéquats. Tout ça provoque des conséquences sur l'augmentation de l'eau dans la surface. Mmh. Autre élément important que nous ne devons pas se voiler la face, c'est de la mauvaise gestion des déchets. Comme vous savez que les déchets viennent obstruer les caniveaux, oui. Et ça fait les refoulements. Les déchets, lui, puissent barrer aussi les cours d'eau. Il favorise les débordements des eaux des pluies.
Oui, surtout quand les rivières sont remplies, tout ça.
Ça favorise les refoulements. Dernièrement, nous avons vu dans la ville de Kinshasa, quand il pleuvait, quelqu'un vient avec son véhicule, il commence à déverser
les immondices.
Les immondices, alors que les autorités urbaines font tout pour enlever les immondices, lui est en train de faire des conséquences, des choses comme ça.
Il déversait dans la rivière.
Il déversait sur les canalisations et dans la rivière.
Oui.
Ils obstruent et ça favorise l'inondation. Ce sont des gestes comme ça qui entraînent les inondations. Mais il faut aussi savoir aussi l'altération des écosystèmes fluviaux. Hein, et en diguant, dans certaines villes où le long des cours d'eau, on peut trouver la forêt galerie. Cette forêt n'existe plus. Les gens sont en train de dégrader, de couper. Ils construisent même sur les berges des cours d'eau. Ça favorise les inondations. Il y a autre chose que dans la ville, on peut parler de l'absence de plans de gestion des risques. Hein, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Aucune anticipation dans la ville, aucune mode de, il n'y a pas de véritable mode de gestion. Ça favorise
gestion des catastrophes.
Hein. Oui, ça favorise le phénomène.
C'est des choses qu'il faut anticiper.
Qu'il faut vraiment anticiper.
En faisant quoi, par exemple, s'il faut parler de l'anticipation.
Mais vous savez, nous savons par exemple que quand il pleut, nous sommes dans la zone intertropicale. Les précipitations sont diluviennes, ça veut dire qu'il peut y avoir risque d'inondation. Mmh. Mais on peut avoir des bateaux d'évacuation, nous pouvons avoir des hélicoptères pour venir sauver les gens. La ville peut faire des canalisations ou les gens qui construisent des routes, ils doivent mettre des canalisations adéquates pour récupérer les eaux de pluie. Des fois, on met des canalisations, ils n'émettent pas de la végétation, parce que pour bien faire la canalisation, il faut aussi végétaliser. Mais si ce n'est pas végétalisé, le phénomène, c'est facile. Oui. Dès qu'il va pleuvoir, l'eau de pluie va s'éroder. L'eau de pluie risque même de faire emporter les canaux, les rigoles qui vont se créer, et ça va provoquer.
Mais par exemple, le cas de Kinshasa, la quantité d'eau qu'on a reçue ici, c'est au-delà des précipitations qu'on a toujours eues régulièrement, parce que quand une pluie, par exemple, commence un vendredi soir et toute la journée du vendredi et du samedi, c'est tout à fait normal.
C'est l'inondation. Cela n'épargne pas aux autorités de commencer à prévoir, parce que ils savent que vous êtes dans, vous avez les millions de populations. Ils savent que les constructions sont anarchiques et les autorités, ils savent quand ils vont pleuvoir. Finalement, un jour, il peut y avoir inondation. C'est pourquoi les autorités urbaines, comme les autres, doivent utiliser les scientifiques pour leur donner de véritables conseils. Et ils doivent déjà avoir les canaux d'évacuation. Ils doivent avoir des motopompes pour enlever de l'eau quand il y a inondation. Il y a toujours les mécanismes d'amélioration pour lutter. La prévention est un
L'anticipation
est un élément très important. La ville ou les villes vont jouer aussi dans les rôles d'alerte. Vous comprenez, par exemple, la ville de Kinshasa, nous avions la forêt météorologique, la météo. À Kinshasa, quand nous on était jeunes, on nous disait qu'il va pleuvoir.
On alertait aux gens, attention, attention, prenez vos dispositions.
Les systèmes d'alerte, prenez des dispositions, quittez cet endroit-là. Il faut faire attention. Alors aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont les mêmes autorités qui se sont précipitées le terrain de la météorologique, de la station météorologique. Mais alors que la station météorologique, c'était une station importante pour l'Afrique centrale. Maintenant, là, mais ça n'arrive pas à donner les systèmes d'alerte pour la ville de Kinshasa. Pourquoi pas une aide? Ça ne peut pas donner même pour la République démocratique du Congo. C'est les autorités elles-mêmes qui défavorisent encore le système. Donc le système d'alerte, on doit le faire. Pour qu'il y ait des pluies, je crois que les autorités ont des canaux importants pour arriver à leur dire que attention, il va pleuvoir et il peut y avoir. Nous savons aussi que nous sommes dans la zone où quand il pleut, l'eau de pluie va s'infiltrer. Et à un moment donné, quand il continue à pleuvoir beaucoup ici, qu'est-ce qu'on constate? L'eau ne va plus s'infiltrer, ça va ruisseler. Et quand l'eau ruisselle, il y a des conséquences.
Oui.
Nous savons aussi quand il pleut, il y a des routes
qui se cassent.
Les autorités savent, ils doivent prévoir, ils doivent alerter la population.
Bien, on va accueillir Monsieur Justin Lucey, il est ingénieur BTP. Ingénieur Justin Lucey, bonjour.
Bonjour Radio Capé, bonjour à l'auditeur.
Bonjour.
Bien, nous parlons aujourd'hui de causes profondes des inondations dans la ville. Est-ce qu'on peut dire que la mauvaise gestion des eaux usées aussi peut contribuer à l'avènement des inondations?
Bon, tout à fait, cette quantité peut jouer, mais les eaux usées ont un volume assez réduit. Je pense que quand il y a une inondation, beaucoup plus c'est lorsqu'il y a plu. C'est pour dire qu'il y a des grandes quantités d'eau qui tombent. Alors, pour ce faire, je pense sur les lits de rivière, les cours d'eau généralement, qui est naturellement conçu par Dieu, il y a les lits mineurs et les lits majeurs. Donc, il y a les lits mineurs lorsque l'eau coule en temps normal, et les lits majeurs qui est le point de repos, on n'est pas dit de rétention des eaux quand il y a de fortes pluies. Malheureusement pour nous aujourd'hui, les lits majeurs, c'est devenu les sièges de squatting, c'est devenu les lieux où on va déverser les immondices dont nous parlons déchets tout à l'heure. Et c'est quand même bizarre, même l'autorité urbaine, je pense qu'il y a des curages qui se font dans des petites rivières de la ville, on va les déverser, je citerai le cas de la rivière Angélie, où vers la 16e rue, on déverse les immondices. Mais ces immondices-là, d'abord, la sédimentation peut causer des effets que vous connaissez bien, les environnementalistes peuvent le dire, et en dehors de ça, il y a le bassin. Donc là où l'eau devait aller se recueillir pendant les crues, cet espace est squatté et occupé et le volume là est rempli par les immondices. Je pense qu'il y a, tout à l'heure, il y a un monsieur, je pense que monsieur Hillet qui a parlé dans la partie qui a précédé, de l'organisation d'un forum. Moi, je pense que il faut appuyer l'idée de ce forum parce que c'est là où toutes les têtes pensantes se retrouvent et il dévoile au moins chacun son idée et on trouve des solutions participatives qui peuvent impliquer les interventions à l'échelle tant nationale qu'internationale. Et peut-être même les échanges de technologies qui iront de ceux qui sont à l'extérieur vers chez nous. Par rapport à ça, je pourrais dire aussi qu'il faut voir, je vous aimerais voir quelles sont les orientations que nous pouvons adopter pour une voie de sortie vis-à-vis de cet embâcle. Donc, il faut des dispositions préventives. Il y a des dispositions préventives que nous devons mettre en place. je ne sais pas, nous devons arriver à ce qu'on appelle une ville intelligente. C'est une ville qui est dotée des éléments préventifs dont l'invité a parlé tout à l'heure. Pour ne parler aussi de la création d'une ville éponge. Parce que la ville éponge peut aussi nous aider pour lutter contre ces inondations. De peur que, avec les changements climatiques, le débit d'eau ne fait qu'augmenter, la lame d'eau augmente, c'est ce qui est dangereux, et il faut prendre des dispositions par rapport à ça. Moi, je propose ici d'abord des préventions rapides que nous pouvons mettre en place et des solutions à long terme, telles que les constructions, les déplacements, ainsi de suite, qui peuvent prendre beaucoup de dispositions.
Oui, en parlant d'une ville éponge, comment fonctionne une telle ville?
Voilà, une ville éponge, je pense qu'on l'a parlé tout à l'heure, que les cours d'eau sont dotés des arbres. Pour ceux qui ont sillonné le fleuve Congo, vous voyez qu'avant Kwamutu, il y a ce qu'on appelle le chaînage, il y a étranglement du cours d'eau du fleuve. En amont de Kwamutu, vous verrez que vers Bolobo et Chumbiri, il y a élargissement. Donc, les eaux vont se répandre pour aller de part à d'autre. Je prends le cas particulièrement de la rivière Njili. Avant le pont Njili, il y a ce qu'on appelle le cratère, d'ailleurs on l'appelle Maziba. Maziba, ça signifie que là où les eaux vont se retrouver. Donc, dans la ville éponge, il y a la plantation d'arbres, et plus le même aujourd'hui en architecture. Il y a des conceptions où on plante même des arbres dessus pour récupérer, pour réduire la quantité d'eau. Donc, avec une ville éponge, avec une ville éponge, ça pourra nous permettre de limiter la fréquence et l'intensité des aléas à l'origine des inondations, telles que la réduction des phénomènes de ruissellement des eaux. Évidemment, il y a plusieurs mesures qu'on pourra citer, d'accord, mais avec l'émission, je ne sais pas citer toutes les préventions.
Merci beaucoup, oui. Monsieur Justin Lucey, ingénieur BTP. Bonne journée. Professeur Nicolas, une réaction, votre réaction par rapport à ce qu'il vient de dire?
Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, il parle des éléments importants, hein, parce que il dit que la ville jette des immondices dans l'eau. Et il a parlé de trois choses, déchets, forum et ville éponge. Et quand ce qu'il dit est vrai, quand vous jetez les déchets, il est vrai que les déchets vont se décomposer. Quand ils se décomposent, ils laissent des liquides qu'on appelle les lixivias. Les lixivias sont toxiques pour la population. Donc c'est un élément très important qu'il vient de soulever. Il vient de parler aussi du forum.
Pour réunir les scientifiques pour réfléchir.
Ouais, parce que généralement, les villes, aujourd'hui, quand on parle de forum, des réunions, ils réunissent les gens de l'administration. Oh, moi, je suis de l'administration urbaine. Ici, c'est pas le problème de l'administration. La ville doit appeler les véritables spécialistes, les environnementalistes, les géographes,
les urbanistes.
Les urbanistes. Donc, les gens cherchaient des véritables universitaires pour faire les points en rapport avec les problèmes d'inondation, les problèmes d'écoulement, les problèmes des éboulements dans certaines villes, comme la ville de Kinshasa. Et ça, c'est très, très important. Et dans la ville éponge dont il parle ici, c'est en fait la végétalisation de la ville. Hein. Partout, nous avons à lever l'écran qui est la forêt. La forêt, galerie le long des cours d'eau, elle est très importante, ou elle était très importante parce que autant ça joue le rôle de protéger les gouttelettes d'eau et ça favorise la stagnation de l'eau au lieu de ruisseler. Quand ça ruisselle, ça commence à être dangereux et puis ça solidifie et ça fixe les sols. Et quand ces éléments, la non-végétalisation entraîne les éboulements, entraîne des ruissellements, et ces ruissellements vont aller se retrouver pour bloquer encore les cours d'eau et favoriser l'inondation. Oui. Et ça va immerger et déstabiliser la ville ou la cité.
Bien, nous parlons des causes profondes des inondations ainsi que des solutions. Vous voulez participer à cette émission, appelez au 099-706-9941.
Radio Okapi.
Spécial Okapi Service sur l'intelligence artificielle et le développement de compétences en informatique. Mercredi 16 avril 2025 à l'Université protestante au Congo, UP en sigle, de 10h à 12h. Un rendez-vous à ne pas rater sur les plateformes digitales de
Radio Okapi.
Étudiants, entrepreneurs, enseignants, chercheurs et amoureux de nouvelles technologies, venez découvrir comment l'intelligence artificielle peut révolutionner plusieurs secteurs et changer nos vies. Rendez-vous avec Jody Daniel Kachama et l'équipe d'Okapi Service le mercredi 16 avril de 10h à 12h à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, nous parlons des inondations. Quelles sont les causes profondes ainsi que les solutions? Professeur, nous avons en ligne le professeur Eustache Kidikwadi. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes docteur en sciences de l'environnement. Alors, qu'est-ce que vous préconisez ou vous proposez comme solution pour faire face à ce phénomène des inondations dans la ville de Kinshasa ainsi que dans d'autres villes du pays?
Bien sûr, merci beaucoup. Je pense que mes collègues viennent de soulever quelques aspects ou des propositions par rapport à ça. Et le cas de la ville de Kinshasa, prenons le problème des inondations, ce que nous avons vu dernièrement, et ce n'est même pas tout simplement au niveau d'Enjili là-bas ou à Massina, mais à travers toute la ville. Alors, les causes sont variées. Prenons le cas de, si vous connaissez très bien la rivière Lukaya, qui prend sa source au niveau de la province du Congo central, notamment au sud de Kasangulu, avant de rejeter notamment ici dans la rivière Ndjili. Alors, chaque fois nous amenons les étudiants à Kimwenzaga, je vous assure que le lit de cette rivière Lukaya est complètement dégradé, détruit par les activités anthropiques et modifié. Et si vous prenez aussi la rivière Ndjili, idem, le lit naturel, comme ça a été prévu, tout est modifié par les activités anthropiques. La végétation n'est plus, on construit les maisons, et les conséquences, c'est clair, c'est la présence des inondations. Comme les amis qui viennent de soulever, par rapport aux différentes causes, vous voyez d'abord ces activités anthropiques-là, il y a aussi l'occupation, notamment du sol. Il y a des endroits qu'on doit construire, il y en a d'autres qu'on ne peut pas construire. Mais si vous constatez très bien, tout au long de la rivière Ndjili, tout au long de la rivière Lukaya, de ce côté-là, vous allez trouver qu'il y a des constructions qui sont tout à fait anarchiques, qu'on ne respecte pas. Or, sur le plan d'aménagement, on parle même de plus de 100 mètres, donc de la distance par rapport à la construction. Mais si vous regardez ici chez nous à Kinshasa, c'est le contraire. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, ils ont déjà dit, des immondices. Vous allez trouver que la plupart des caniveaux, on jette les immondices, même si on prend quand même soin d'évacuer, mais vous allez trouver qu'il y a vraiment des immondices. Parce que 65% des déchets de la ville sont les déchets organiques, les trouverons. Alors, tous ces déchets-là, ça constitue un obstacle pour le passage de l'eau. Et ça va créer notamment les inondations par rapport à ça. Alors, comme vous venez de parler avec les amis, parmi les solutions, mais les questions, c'est quoi? Ça ne sert à rien, ces questions, d'aller sur le terrain, prospecter, visiter, et vous avez noté toutes les causes possibles. Partant de ces causes-là, il y a des scientifiques comme d'autres qui venaient de dire, nous n'avons pas besoin de gens qui travaillent dans le bureau. Mais c'est la vérité terrain qui fait tout au long pour voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. On peut construire, par exemple, les digues. On peut faire, par exemple, le curage de ces rivières. Parce que si on doit évacuer tout ce qui est comme des déchets, on va normalement créer notamment un passage de l'eau. L'eau va passer librement sans problème. Pourquoi il y a des inondations? C'est parce que vous allez trouver l'eau, au lieu que l'eau s'infiltre facilement, mais l'eau est bloquée. Le passage devient très difficile par rapport à cela. Alors, c'est parmi les solutions que nous pouvons penser par rapport à ça. Le cas typique, notamment de la rivière Ndjili, là, faire le curage et aussi les digues. Si c'est possible, devant l'État, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Tous ces gens qui ont construit, qui ont tenté de construire tout au long des parts et d'autres, selon la loi, si ça ne vient pas, ça ne convient pas. On peut penser à délocaliser. Parce qu'il faut sauver la population, la même population qui est en train de causer des problèmes, c'est la même population encore qui est en train de se plaindre suite aux inondations. Alors, il est intéressant, notamment de penser, par exemple, au curage, de construire les digues et aussi les mesures préventives qui sont tout à fait nécessaires pour éviter tout ce qui est comme les digues, plutôt tout ce qui est comme les impacts potentiels qui sont négatifs liés aux inondations. Et aussi, si vous regardez très bien, il y a des endroits, lorsque on voit la façon que les gens sont en train de construire, la nappe phréatique est vraiment superficielle. Même si l'eau va s'infiltrer, mais ne peut pas aller en profondeur. Et conséquence, c'est quoi? Il y aura toujours des inondations. Et aussi, les collecteurs. Visitez, vous allez voir dans la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui construisent et les maisons ne sont pas assistées. Les constructions, il faut prévoir des collecteurs. Ce sont ces collecteurs qui vont recueillir, par exemple, les eaux de pluie. On peut chercher le puits perdu, ça serait intéressant. Mais la plupart des maisons que vous allez trouver sont les maisons qui ne sont pas assistées. Comme disaient mes frères, oui. Ce sont des constructions qui sont anarchiques.
Bien, alors professeur,
conséquence, oui. Ce sont des inondations que nous allons observer.
Professeur Eustache, certains, bon, à un moment on parlait de la construction d'une deuxième ville de Kinshasa parce que ici c'est saturé. Est-ce que c'est une solution casser par exemple certaines les constructions anarchiques qui se retrouvent sur les collecteurs, envoyer les gens ailleurs et refaire les canalisations libérer les collecteurs?
Bien sûr, il y a des propositions. Nous devons sauver nos compatriotes. Si nous trouvons que les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas laisser les gens de vivre dans ces conditions. Il faut trouver des solutions par rapport à cela. Mais les conditions, c'est quoi? Ce sont les normes. C'est comme je venais de dire. Si nous trouvons que vous avez construit, il y a une maison tout proche de cette rivière, automatique, c'est l'État qui doit décider pour trouver des solutions par rapport à ça. Parce que sinon, chaque fois, il y aura toujours des inondations. Et les conséquences seront énormes, non seulement sur la population humaine, sur la biodiversité et autres. Et c'est tout un système qui sera perturbé par rapport au fonctionnement de l'écosystème urbain et aussi aquatique.
Bien, professeur Nicolas Choukou, est-ce que c'est une solution? Par exemple, ceux qui ont construit sur les collecteurs, faut-il casser ces maisons, les envoyer ailleurs? Ceux qui ont construit dans les zones marécageuses, là, est-ce qu'il faut les laisser là-bas ou il faut carrément les envoyer ailleurs?
Moi, je pense que la République démocratique du Congo a des lois, hein, il faut appliquer. Mais quelqu'un qui va construire une maison sur un caniveau, donc c'est même pas son espace. Donc, il faut commencer d'abord par punir les gens du ministère des Affaires foncières qui font de l'anarchie aussi. Il faut enlever ces gens-là, karma. Il faut les enlever, mais quand vous allez dans le domaine de l'évaluation mentale, parce que c'est l'État qui a récupéré l'argent aussi, il faut les dédommager. Vous les enlevez et vous les dédommagez, vous les installez ailleurs et vous améliorez des caniveaux. C'est vraiment quelque chose de très important. Dans la zone, dans le bassin de réception des cours d'eau, là où les gens sont en train de construire, c'est des zones inondables. C'est la zone, déjà la loi.
Or, les gens ont acheté leurs parcelles là-bas, ils ont construit, ils ont même les certificats dans les
zones. Ben, c'est ça, c'est la faute est à partager au gouvernement, aux autorités urbaines. Je ne sais pas si c'est, je crois, aux autorités urbaines, les ministères des Affaires foncières, et puis la population elle-même. Mais comme l'argent est entré dans la caisse ici, de l'État, c'est que l'État doit enlever ces gens-là, il doit les dédommager et il doit les délocaliser. Ça, c'est ce que selon les normes. Mais quand nous entrons véritablement dans les solutions d'élite contre les inondations, il y a trois types de solutions à faire. Il y a la solution technique et qu'on appelle une solution liée à des infrastructures. L'État doit, ou bien la ville, ou l'État doit améliorer les réseaux de drainage pour éviter les inondations. Il doit construire et entretenir d'une façon régulière les caniveaux. Vous voyez, quand les caniveaux ou les cours d'eau sont curés régulièrement, il y a risque qu'on n'ait pas les inondations. Hein. Il faut qu'on puisse intégrer des solutions basées sur la nature. Donc, c'est-à-dire que les bassins de rétention doivent être améliorés au lieu de construire dans ces bassins de réception. Il faut, dans la solution technique, il faut la réforestation. L'État doit végétaliser encore. Il faut restaurer les bassins versants par la plantation des arbres pour stabiliser le sol. Mmh. Parce que quand le sol est stabilisé, c'est important pour éviter les ravinements. Donc, l'État ou bien la ville doit aménager son territoire. Il faut qu'il y ait un plan d'aménagement.
D'aménagement du territoire.
Nous sommes dans la solution technique des infrastructures. Oui. Et il faut aussi construire des infrastructures de protection. Donc, c'est la prévention. Il va faire des digues. Il doit construire les barrages. Il doit construire un système de pompage pour éviter l'inondation. Mais il y a la solution socio-économique ou la solution politique. Donc, la solution importante qui est l'éducation. Mais dans l'éducation, il y a la sensibilisation. Donc ça c'est important, faire des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques et la participation des communautés, informer la communauté comment gérer certains risques. Parce que ça, il n'y a pas la conscientisation dans le pays, c'est très important. Il y a la gestion des déchets solides. Donc ça, c'est au lieu de dire à la population, au lieu de jeter dans les caniveaux, au lieu de jeter dans l'eau, il faut avoir les zones de dépôt, hein, une mise en place de systèmes efficaces de collecte. Sensibiliser les gens, la population sur le...
Et si la collecte pose toujours problème, à un moment, l'Union européenne avait proposé une solution des zones de collecte dans les quartiers, mais après, ça débordait, c'était des mauvaises odeurs.
Oui, c'est tout parce ça, que... C'est
les centres de transit hein, qui étaient
dans les autres cieux. Ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait pas en République démocratique du Congo? C'est un problème de mentalité. Il faut que les autorités conscientisent. Il faut que l'éducation mésologique intervienne. Il faudrait aussi que les financements s'en suivent. Parce que ce qui est arrivé avec l'Union européenne, à un moment donné, l'Union européenne commence, il vient avec les moyens, la partie financière de la RDC n'arrive pas. Quand ils abandonnent, c'est fini.
C'est fini le projet.
Les projets deviennent dans l'eau. C'est ça le problème aussi, le problème des contrats. Les Congolais ne respectent pas leurs engagements. Quand vous signez les accords, vous allez donner 50%, les autres 50%. Quand les gens viennent avec 50%,
vous n'apportez rien.
Et quand vous venez avec des bavardages, ce n'est que normal que vous trouverez la même conséquence. Une autre solution que je disais, c'est la solution innovante, hein. C'est une solution innovante basée sur la nature. Ça favoriserait aussi, réduirait l'inondation, telle que les infrastructures vertes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des toitures, si on changeait nos toitures à des toitures végétalisées, hein. Dans les villages, nous avions ces toitures-là. Ça récolte, ça accueille moins de l'eau pour les amener vers les sols, en fait, de les emporter. On peut avoir aussi des pavés perméables, au lieu de mettre les bétons partout, et on peut avoir des pavés qui puissent favoriser la perméabilité du sol.
Donc le béton en soi n'est pas une bonne chose. Hein?
Mais le béton, d'abord, quand il fait chaud, le béton accumule la chaleur. Ça joue le rôle d'albédo. À un moment donné, le soir, ça va dégager cette chaleur. Mm. Vous allez regarder à Bandal, aller à Kintambo, aller partout aujourd'hui à Yolo. Les gens, ils ont construit des maisons, ils ont mis des clôtures à béton, ils ont bétonné leur sol. Mais c'est clair, et le soir, qu'est-ce que vous les
il
voyez?
Il fait très chaud. Hein?
Ils sont très chauds, vous les retrouvez, ils laissent leur maison, ils sont dehors le long de la route pour chercher l'aération. Alors que c'est, comme je l'avais dit, l'arçon anthropique. Donc là, c'est un phénomène d'albédo terriblement qui entraîne la chaleur.
Mmh. Mmh. Bien, on va accueillir Jules Boukassa qui nous appelle de Louputa, dans les territoires de Luila, dans la province de la Lomami. Jules Boukassa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je m'appelle Jules Boukassa depuis la cité de Louputa, au territoire de Luila, dans la province de Lomami.
Voilà, territoire de Luila.
Je commence par déplorer ce qui est arrivé à nos compatriotes de Kinshasa. La mort... vraiment de nos compatriotes, vraiment nous déplorons ça. Bon, moi j'attribue la cause d'abord finalement à l'État. Hein. C'est l'État d'abord qui est à la base. Les inondations sont un phénomène qui est naturel, mais il faut savoir comment prévenir les inondations. Et c'est l'État qui est à la base de la vente des parcelles, des terrains, n'importe où. Même dans les endroits où il ne faut pas vendre, l'État est en train de vendre. Et aussi nos compatriotes sont en train d'acheter. Bon, parfois c'est à vil prix, bon, on achète, mais on ne voit pas les risques qui vont venir après. Et cela aussi, je pense que l'État doit faire tout. Même les gens qu'on envoie pour aller détruire, parce que j'ai suivi le président de la République, il a dit on peut prendre des mesures. Et parmi les mesures, parfois, c'est pour détruire toutes ces constitutions anarchistes. Mais les gens qui vont aller pour exécuter ces missions-là, souvent, ils sont corrompus. Souvent, il y a les trafics d'influence. Vous allez voir, c'est le frère de tel, c'est le ministre tel, c'est le général tel. Et parfois, c'est qui cause encore ces problèmes. Je pense que parmi les solutions qu'on exécute ces décisions-là avec fermeté, je pense qu'on va en finir avec ces problèmes de construction, des morts, des trous. Même, je sais que ça fait mal pour détruire les maisons, mais nos compatriotes doivent savoir que c'est pour leur intérêt. Parce que quand ils commencent à passer nuit au-dessus des maisons, des tôles, des toitures, c'est pas encore bien. Aujourd'hui, c'est l'État qui commence à dépenser beaucoup d'argent. Parfois, de l'argent qu'on avait vendu des parcelles, ce n'était même pas entré dans la caisse de l'État. Je pense que l'État doit faire quand même son travail. Ça fait mal, mais c'est comme une épine dans le pied. Pour l'arracher, le sang va couler, mais il faut qu'on l'arrache pour que le pied soit en bon état. C'est ça ma contribution.
Bien, merci. Bienvenue, vous êtes en Banzangungu, dans le Congo central. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Bien, il n'est pas en ligne. Professeur Stage, bienvenue, vous êtes là?
Oui, je suis là, monsieur le journaliste, je suis là.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, la préoccupation, c'est que...
C'est le professeur Estache qui dit quoi dit. Vous avez la parole, bienvenue. Bon, je pense qu'il y a des soucis avec... Allô?
Ah oui, c'est comme disait... Oui, je vous écoute. C'est comme disait l'autre frère là, par rapport à son intervention.
Oui.
Je pense qu'il faut trouver toujours des solutions en amont pour éviter tous ces phénomènes, parce que c'est vrai, un phénomène qui est naturel, mais aggravé par les activités humaines. Que nous devons sauver les gens par rapport à ça. Alors, ces questions, qu'il y ait une bonne organisation en termes de consultation, de réunions, de colloques, et puis chercher un peu les scientifiques, descendre sur le terrain pour cibler toutes les zones qui sont inondées. Et ça sera quelque chose de très intéressant, calculer un peu quelle est la superficie, on détermine les causes et on trouve des solutions qui sont pacifiques par rapport à ces inondations que nous sommes en train de constater dernièrement et dans la ville de Kinshasa. C'est vrai, le changement climatique est là, mais il y a aussi le problème d'homme. C'est l'homme qui est en train vraiment d'accélérer par rapport à ses besoins. Il y a aussi le problème de ceux qui construisent les maisons. Il met dans la parcelle, tout est pavé. Ce n'est pas bon. Il faut laisser le sol et peut-être probablement planter la pelouse parce que bétonner, ce n'est pas bon. Le sol, dès qu'il y a l'eau qui tombe, au lieu de s'infiltrer, l'eau, ce sera un passage qui sera bloqué. Et c'est ça que nous sommes en train de constater aussi dans la ville de Kinshasa. Alors, vous voyez que comme c'est une ville, c'est vrai, on peut avoir création d'une autre ville. Il faut réunir les conditions possibles, notamment les sites. Et la situation, comment se présente le site, parce que ce sont les gens qui vont vivre, est-ce que les conditions sont nécessaires, ou bien comment. Mais les symposiums sont nécessaires, les réunions sont nécessaires, les ateliers, on pouvait s'organiser pour ça, on cherche les spécialistes en matière, selon les différents domaines, les géologues, les pédologues, les chimistes, en bref, il faut travailler en synergie. Donc, c'est ça qui est important par rapport à ça. Et aussi, comme nous venons de dire, pour de mentalité. Comment voulez-vous prendre les déchets, vous jeter directement dans des caniveaux? Ce n'est pas bon. Il faut que l'État doit chercher une décharge qu'on appelle un site, qui est une décharge publique. Et c'est l'État qui doit prendre en charge par rapport à ça. Mais actuellement, qu'est-ce que nous constatons? À des fois, on fait évacuer quand même les déchets, nous voyons dans les caniveaux, et ces déchets sont abandonnés. Ce n'est pas bon. Cette question est qu'il y ait une évacuation d'une façon contrôlée et avoir un site que nous appelons décharge publique, comme c'était fait à l'époque, mais ailleurs on le fait. Mais ces questions de surveillance, des questions de sensibilisation et de mettre des moyens pour sauver notre écosystème urbain. Sinon, il y aura toujours des gens qui auront toujours des problèmes par rapport à ces inondations.
Bien, professeur Nicolas Soukou, votre réaction par rapport à la question de Jules Bokassa.
Oui, je commence par celui qui a parlé de la décision du chef de l'État. En réalité, quand le chef de l'État donne une décision, ça doit s'exécuter. Mais si ça ne s'exécute pas, on croirait que le chef de l'État a menti. C'est pas le chef de l'État qui doit commencer à descendre au niveau des quartiers, des communes. Il a parlé, mais ça doit tout ça s'exécuter. Il faut que les autorités urbaines puissent aider les pays à canaliser, à enlever toutes ces personnes qui sont en train de construire leurs maisons sur les caniveaux, dans des mauvais endroits. C'est vraiment très important. Lui, il a parlé de l'action. L'autre parle de l'action humaine. J'ai déjà parlé de l'action anthropique. L'action anthropique, ce n'est que les actions humaines.
Les activités humaines.
Quand on parle des activités humaines, il y a les constructions en Afrique, il y a des différents éléments qui sont en train de parler. Il a parlé des réunions, nous avons parlé de, l'autre a parlé des forums. On a déjà parlé de ça, mais sauf que j'ajouterais, dans la lutte contre les inondations, il est important de faire l'aménagement du territoire et réaliser l'urbanisation durable. Nous devons, à la ville de Kinshasa ou ailleurs, éviter la construction dans les zones inondables. Parce que quand vous allez construire là où il y a, sur les vallées, vous construisez sur les lits des cours d'eau, vous construisez sur les lits sur les zones marécageuses. Ce n'est que normal, vous allez vous retrouver un jour sous l'eau des pluies.
Maintenant, toutes ces personnes qui ont des maisons le long des rivières, Njili ou autres, qu'est-ce qu'elles doivent faire?
La loi donne une mesure de servitude de certaines centaines de mètres. En réalité, si la loi...
Généralement, ça n'a, les gens ne respectent pas.
Mais si la loi n'est pas respectée, il y a les responsables pour faire respecter les lois. Il faut les faire respecter. Donc, il faut les enlever, ils sont déjà hors la loi. Donc, il faut, parce que si on ne les enlève
quelqu'un
pas,
qui a déjà investi, construit sa belle maison,
c'est normal,
tout ça.
Nous voyons ici, l'eau est en train de monter jusqu'au niveau des hanches. L'eau est en train de monter jusqu'au niveau de la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez des enfants de 2 ans, 3 ans, nous risquerons toujours de commencer à appeler l'autorité urbaine pour enterrer les gens, pour votre propre ignorance. Alors, il faut vraiment prendre des décisions courageuses. Il faut respecter.
Bah, peut-être que les gens peuvent se dire, bon, ça va passer, les inondations, c'est ce mois d'avril, après avril, peut-être, mais bon,
la situation risque de redevenir normale durant la saison sèche, deux, trois, quatre mois. Et ils vont vivre avec des conséquences de cette inondation. Parce qu'il y a l'épidémie qui vont arriver. Il y a les choléra qui doit arriver. Il y a d'autres maladies des métals qui arriveront. En plus de l'inondation, ils vont vivre cette
forme. Et puis, on perd tous les biens à la maison. Et tout est détruit.
Après 3-4 mois, on arrivera encore dans la zone pluvieuse. Vous allez encore trouver l'inondation. Et vous allez appeler l'autorité urbaine de venir. Vous allez appeler l'État. Mais pour éviter de perdre de l'argent, il faut les enlever. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, il faut respecter les plans urbanistiques et les normes de construction. Il faut vraiment, il y a des quartiers où il faut vraiment des lois pour construire des maisons. Il faut créer des zones de tampons, pour protéger, pour éviter les inondations. Créer, par exemple, les parcs, les espaces verts, zones humides.
Ben ici, chez nous, on n'aime pas voir les espaces verts. Hein. Dès qu'on voit un espace vert, vite on va chercher à élever un immeuble là-bas.
Ouais, les Congolais sont ennemis de l'espace vert, alors que quand les espaces verts sont très importants pour l'équilibre éco-climatique. Hein. Quand vous détruisez les espaces verts, c'est que vous êtes en train de détruire aussi la chaîne trophique. Et quand vous détruisez la chaîne trophique, c'est qu'un jour vous allez vous-même vous détruire. Hein. Donc, il faut aussi dans la solution mettre des infrastructures adaptées. Ça veut dire construire ou bien entretenir les caniveaux. Il y a un moment, j'ai vu le gouverneur de la ville en train d'entretenir, tirer les rivières. Ils doivent le faire régulièrement. Et il faut collecter les déchets et utiliser les matériaux perméable pour éviter les inondations. Ça, c'est un élément tout à fait important. Autre chose qu'il faut faire, c'est la protection de l'environnement ou toujours avoir la solution naturelle. Dans les villes, il faut reboiser. Même s'ils n'aiment pas la végétation, il faut vraiment reboiser. Reboiser sur les collines. quand vous construisez sur les collines, c'est qu'il y a toujours l'érosion. Mmh. Les gens croient que les gens du bas-fond qui auraient des problèmes. Mais c'est
même ceux qui sont au sommet, là.
Dans les zones collinaires, mmh. parce que les ravins vont venir et ça, vous allez vous retrouver dans l'éboulement. Il faut restaurer les zones humides hein, en oui. agissant comme éponge naturelle. Parce que vous les construisez, vous faites des, vous végétalisez. Et je disais l'autre fois, au début, de favoriser la toiture végétalisée.
Comment elle fonctionne cette toiture? Bon, je reviens à cette affaire des toitures végétalisées. Professeur Eustache qui dit quoi dit, vous avez un mot à dire par rapport à toutes ces solutions proposées par le professeur Nicolas Choukou?
Oui, le collègue a proposé, ce sont juste les solutions, c'est tout à fait normal, surtout restaurer les endroits qui sont dégradés en face notamment des lits, parce que c'est comme il dit, la végétation joue un grand rôle important pour le bon fonctionnement, notamment d'un écosystème. Alors, si la végétation est détruite, les conséquences, ça, nous sommes en train de voir. Parce que moi, je pars très souvent avec les étudiants sur le terrain. Vous allez voir si vous êtes vers Lukaya là-bas, à Kimwenzagar, jusqu'à arriver de l'autre côté au sud de Kinshasa, vous allez trouver que la végétation est partie. Et ce sont des terres que nous appelons les terres marginales. Qu'on ne peut pas mener des activités, qu'on ne peut pas dégrader, sinon il y aura de conséquences importantes, notamment sur la biodiversité, sur la santé humaine et aussi sur le milieu physique. Je pense que c'est ça ce qui est essentiel, mais c'est question de prévoir, c'est l'État qui doit prendre des dispositions, de construire les digues et aussi à nettoyer, à curer, faire le curage. Moi, je me rappelle encore à l'époque. Ce n'était pas ici, mais les gens quand même faisaient, on voit. Mais pour le moment, il faut curer quand même la rivière pour permettre à dégager tout ce qui est comme les déchets qui sont jetés dans l'eau. Sinon, ça constitue un obstacle pour le passage de l'eau. Mmh. Merci.
Bien, professeur Eustache qui dit quoi dit, docteur en sciences et l'environnement, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup à vous aussi.
Bien, nous parlons dans Capi Service aujourd'hui des causes profondes des inondations ainsi que les solutions. Professeur Nicolas Choukou est directeur exécutif de l'Association nationale pour l'évaluation environnementale. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de parler des toitures végétalisées. Comment ça fonctionne, professeur?
Ouais, et une toiture végétalisée, ça veut dire que votre toiture doit avoir de la végétation. Vous savez, les arbres absorbent une partie des eaux de pluie hein, et ralentissent les ruissellements. Un hectare de forêt peut ralentir jusqu'à 200 000 litres d'eau. C'est très important. Alors, quand vous avez votre maison, au lieu de mettre des tôles métalliques ou galvanisées, vous pouvez mettre la végétation. Vous pouvez mettre des lianes, vous pouvez mettre les feuilles en haut parce que...
Au-dessus de la toiture.
Au-dessus de la toiture. C'est très, très important. C'est moins cher. Et c'est écologique.
Et ça va réduire la quantité
Ça va réduire la quantité de l'eau parce que ça joue la végétation joue toujours le rôle de l'écran et la quantité d'eau qui vont ruisseler pour atteindre le sol, ça sera amoindri. C'est très important. Et c'est une des solutions.
Mais pour faire tout ça, il faut beaucoup de moyens.
C'est au village, les gens ont des maisons végétalisées. D'ailleurs, ils n'achètent pas les feuilles. Ils vont les couper. Ça coûte, c'est une solution moins chère, encore écologiquement moins chère et économiquement rentable.
Voilà, pour terminer, professeur, qu'est-ce qu'on retient? Donc, il est important de faire appel aux scientifiques pour réfléchir sur les solutions proposées face au problème des inondations à Kinshasa.
Ce qu'il faut retenir, franchement, il faut conscientiser, il faut sensibiliser et il faut fédérer les sciences pour parler des inondations, pour parler de l'accumulation des eaux, pour parler des érosions dans la ville, pas seulement dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, parce que des inondations se trouvent partout. Hein. Mmh. Et à ce moment-là, les scientifiques puissent parler, pas les administratifs, mais pas les autorités politiques. Ici, c'est les hommes de science capables de réfléchir et repenser sur une nouvelle ville et comment améliorer et comment éviter les inondations dans la ville.
Bien, professeur Nicolas Choukou, directeur exécutif de l'Association nationale pour l'évaluation environnementale, ANER-RDC. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capu Service. Merci de l'avoir suivi. Polydor, Hippolyte Kapanga était à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation de ce programme. Au micro, aujourd'hui, Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence et la paix. À la prochaine.